Chapitre 34, The Girl in the Dark. L'esprit cherche, et c'est le cœur qui trouve. George Sand. Le film durait moins de 30 secondes. Il consistait en un plan serré sur le visage dévasté de la jeune fille. Paniquée, visiblement à bout de force, les yeux cernés, Alice regardait la caméra avec intensité. La lumière blafarde qui l'entourait laissait penser qu'on la retenait dans un sous-sol ou un cachot. Son débit était saccadé, coupé par les sanglots. En hoquetant, elle parvint néanmoins à s'adresser directement à son père pour lui communiquer les revendications de ses ravisseurs.
« Sauve-moi, papa. Change ton témoignage, s'il te plaît. » Après, nous pourrons être réunis. Réponds-moi vite, papa. »
Puis, la caméra s'éloigna, permettant de distinguer la frêle silhouette d'Alice enchaînée à une canalisation. « Ce film nous est parvenu ce matin par l'intermédiaire d'un coursier, » expliqua Blythe Blake en faisant un arrêt sur image. Danny serra les poings. Réduit à l'impuissance et rongé par la culpabilité, il était profondément pessimiste. « Ça va faire 12 heures qu'elle a été enlevée. Si on ne la retrouve pas très vite, ils la tueront, quoi que je fasse. Et sans ces médicaments, elle risque à tout moment de faire une insuffisance rénale. » Blythe s'installa à une table en fer forgé sur laquelle étaient posés 3 ordinateurs portables. « Nous avons essayé sans succès de localiser le téléphone d'Alice, » précisa-t-elle en transférant le film sur l'un de ses disques durs. Elle visionna plusieurs fois l'enregistrement, isolant la bande son et effectuant des dizaines de captures d'écran, zoomant sur le moindre détail. Intéressée par ces aspects techniques, Madeline s'approcha des ordinateurs. Blythe lui détailla sa procédure. Il y a la date et l'heure précise en bas du film. En amplifiant la piste sonore, on repérera peut-être des bruits en apparence inaudibles, métro aérien, bourdonnement de la circulation, qui peuvent nous mettre sur une piste. Et le caméscope ? Demanda Jonathan. L'image semble de bonne qualité malgré la pénombre. C'est un modèle récent, analysa Blythe. En quelques manipulations, elle lança un logiciel capable d'identifier la marque et le modèle. C'est un Canon à mémoire flash, sorti sur le marché il y a moins d'1 an. Je vais demander au bureau de dresser la liste des dernières ventes en magasin ou sur Internet, mais ça prendra du temps. Elle isola ensuite le détail d'une image qu'elle afficha en gros plan.
« Ce qui m'intéresse, c'est ce tuyau, » dit-elle en montrant un agrandissement de la conduite à laquelle était enchaînée Alice.
« Il est ancien et massif. À première vue, je dirais que cette canalisation a au moins 1 siècle. Mais je vais contacter des experts capables de la dater très précisément. Avec un peu de chance, en croisant toutes nos données, on pourra localiser la planque. »
Puis, elle se tourna vers l'agent qui avait réceptionné la clé USB contenant le film.
« Tu as la déposition du coursier, Chris ?»
Depuis son téléphone, le Man in Black transféra un document qui s'afficha sur l'écran de l'ordinateur.
« Il travaille pour Bike Messenger, une agence de livraison près de Wall Street. Mais aujourd'hui, il bossait en freelance. Il a pris livraison du paquet au croisement de Dutch et de John Street. L'expéditeur s'était déplacé lui-même. Grand, caucasien, épais, la quarantaine. Il a réglé en espèces sans mentionner son nom. On a son portrait robot ?
Terence est en train d'interroger le livreur.
Eh bien, dis-lui de passer la vitesse supérieure. Je veux pouvoir diffuser son signalement dans 10 minutes. À partir de maintenant, chaque seconde compte.
Une demi-heure plus tard. Le Matchbox devait sans doute son nom à l'exiguïté du lieu. Dieu sait comment le propriétaire du pub était parvenu à aménager la pièce de façon à pouvoir disposer 20aine de couverts dans une petite salle cosy ouverte sur un jardinet. Assis devant un bagel au saumon, Jonathan venait de rendre compte à Madeline de son entrevue avec Francesca. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il avait parlé avec sincérité, lui racontant précisément les circonstances dans lesquelles sa femme avait tué Lloyd Warner et s'était débarrassée de son corps avant de s'assurer un alibi avec la complicité de George. Une prouesse qui lui avait permis de ne pas être accusé de meurtre, mais qui lui avait coûté son mariage.
« Je pense qu'avec la mort de ce type, la Terre compte un salaud de moins, » répondit Madeline.
« Une saillie à la Danny Doyle. »
« Je trouve que ta femme possède un sacré sang-froid et une intelligence redoutable, » compléta-t-elle.
Elle avala une dernière bouchée de sa tartine de chèvre frais et prit une gorgée de vin.
« Et je crois que tu devrais aller la retrouver. »
Jonathan tomba des nues. En une seconde, Madeline avait fait voler toute leur histoire en éclats.
« Et nous ?»
Elle le regarda dans les yeux.
« Ne nous mentons pas. Notre relation est fragile. Quel est notre avenir ? Nous habitons à 10 000 kilomètres l'un de l'autre. Nous sommes aussi paumés l'un que l'autre. Il y aura toujours un moment où tu regretteras de ne pas être retourné vivre avec ta femme et ton fils. »
Jonathan tenta de garder son calme.
« Ça, tu n'en sais rien du tout. On ne va quand même pas se séparer à cause d'une hypothèse foireuse. »
« Tu n'as plus rien à faire ici. Alice Dixon ne représente rien pour toi, ce n'est pas ton combat.
Elle fait autant partie de ma vie que de la tienne. »
Il avait haussé le ton cette fois. Le restaurant était tellement étriqué que tous les regards se tournèrent vers lui. Il détestait cet endroit, avec ses tables collées les unes aux autres, ne laissant ni liberté de mouvement ni intimité.
« Écoute, Jonathan, cette histoire a commencé dans le sang et elle finira dans le sang. Il n'y aura pas d'issue heureuse. » Et tu n'es pas préparé à affronter cette violence. Moi, je suis flic. Blythe travaille pour le FBI. Danny est un assassin. Mais toi ?
Moi, je ne suis qu'un gentil restaurateur, c'est ça ?
Toi, tu as une famille.
Je pensais que tu pourrais en faire partie, remarqua-t-il en se levant.
Il posa 2 billets sur la table avant de quitter la brasserie. C'était la première fois que Madeline se sentait vraiment amoureuse d'un homme. Pourtant, elle ne chercha pas à le retenir.
« Fais attention à toi, »
murmura-t-elle. Mais il était déjà parti. Le cartel mexicain qui avait commandité l'enlèvement d'Alice était manifestement prêt à tout. Touché dans sa fierté, Jonathan n'avait pas compris que c'était parce qu'elle l'aimait que Madeline refusait de l'entraîner avec elle dans ce fleuve de ténèbres. La station de métro de Bedford Avenue n'était qu'un pâté de maisons. Jonathan s'engouffra dans la gare et rentra à Greenwich. Chez Claire, il resta 20 minutes immobile sous la douche, épuisé par le décalage horaire et le manque de sommeil, traversé par un flux d'émotions et de sentiments contraires. 15 heures. Il appela San Francisco et parla longuement avec son fils. Charlie ne comprenait pas pourquoi son papa n'était pas avec lui la veille de Noël. Mais Marcus se montrait à la hauteur et le remplaçait, comme il pouvait, dans ce rôle de père dont Jonathan n'avait jamais vraiment su jouer la partition. Ce dialogue avec son fils l'enfonça encore un peu plus dans la tristesse. Pour échapper à la solitude, il enfila des vêtements propres et sortit prendre un café dans le premier bar qu'il trouva sur McDougall Street. Il espérait que la caféine l'aiderait à trouver des idées claires. Pendant un moment, des images d'une famille à nouveau réunie se superposèrent dans son esprit à la manière d'un diaporama rassurant. Il se remémora tous les moments de plénitude qu'il avait partagés avec son ex-femme et Charlie. Les aveux de Francesca l'avaient libéré d'une souffrance qui l'emprisonnait depuis 2 ans, le noyant dans un brouillard qui lui avait fait perdre sa confiance et ses repères. À présent, il avait l'occasion de retrouver sa vie d'avant. N'était-ce pas finalement ce qu'il avait toujours voulu? Dans 2 heures, il pouvait être dans un avion pour la Californie, récupérer Charlie et revenir à New York passer les fêtes avec Francesca. Cette perspective était réconfortante. Il se souvenait d'une phrase d'un de ses collègues. « Un arbre sans racines n'est qu'un bout de bois. » Il avait besoin de fondations pour ne pas perdre pied. Pourtant, l'image de Francesca s'effaça peu à peu derrière celle de Madeline. La jeune femme avait sans doute raison. Leur histoire s'était construite sur du vent. Et pourtant... Pourtant, il était incapable de se plier à la voix de la raison. Madeline avait fracturé son cœur pour y instiller le poison du manque. Machinalement, il sortit un stylo de sa poche et, saisi d'une inspiration subite, commença à griffonner sur la nappe en papier.
Au bout de 3 minutes, il se rendit compte qu'il avait conçu un dessert à l'image de la jeune Anglaise. Un millefeuille à la crème légère de rose et de violette, avec une fine pâte feuilletée caramélisée à l'orange douce de Tunisie. Il en fut le premier étonné. Depuis 2 ans, il était en panne sèche de créativité et n'avait pas inventé le moindre plat. Aujourd'hui, le verrou venait de sauter et l'amour l'inspirait à nouveau. Cette perspective le rasséréna et lui donna confiance en l'avenir. Pourquoi n'ouvrirait-il pas un restaurant à New York couplé à une petite école de cuisine? Enfin un projet qui avait du sens. Jonathan avait appris de ses erreurs et ne commettrait pas 2 fois les mêmes bêtises. Fini la foire aux vanités, la course aux étoiles, la recherche de la consécration médiatique. Il avait en tête un établissement de caractère, servant une cuisine originale et ambitieuse, mais pas dans un décor luxueux. Terminé, les verres en cristal et les services en porcelaine créés par des designers à la mode. Plus jamais il n'accolerait son nom à des produits dérivés ou à des plats surgelés dégueulasses vendus en supermarché. Désormais, il ferait son métier en artisan, avec pour seul objectif de prendre et de donner du plaisir. Il quitta le café en emportant avec lui quelques ferments d'espoir. Mais il savait que cet avenir passait forcément par la survie d'Alice Dixon. Où serait-il aujourd'hui s'il n'avait pas croisé la route de la jeune fille? Enterré 6 pieds sous terre, sans aucun doute. Il lui devait la vie. C'était la dette la plus forte qu'il avait jamais contractée. Une créance de sang qu'il était bien décidé à honorer. Les images de la captivité d'Alice envahissaient son esprit. Tout était désordonné. Il essaya de se souvenir de ses dernières paroles, mais il n'y parvint pas. Il remonta jusqu'à la 20e rue, la nuit commençait à tomber. Malgré le froid qui lui cinglait le visage, il continua à déambuler dans les rues, repensant à l'incroyable destin d'Alice. À sa vie qu'elle avait menée comme un combat. À la force de caractère qu'il lui avait fallu pour se libérer de ses chaînes et devenir maîtresse de son existence. Depuis son plus jeune âge, elle s'était battue toute seule, sans famille, ni amis, choisissant chaque fois le chemin le plus dur, celui qui consiste à ne pas fréquenter la médiocrité, à éviter de se laisser tirer vers le bas par les minables et les abrutis. Une ligne de conduite déjà difficile à suivre lorsqu'on est adulte. Mais lorsqu'on a 13 ans... Il arriva à l'est de Chelsea. À présent, il faisait nuit et quelques flocons argentés, portés par le vent, voltigeaient sous les lampadaires. Le froid l'incita à pousser la porte du Life and Death, un célèbre bar à cocktail. Une musique lounge s'élevait des 4 coins de la pièce. Jonathan n'appréciait pas forcément ce genre d'endroit, mais les mouvements et les conversations lui donnaient l'impression d'être moins seul. Quant à la musique, elle créait une sorte de bulle qui, paradoxalement, l'aidait à réfléchir, à ressasser des idées, à macérer dans ses réflexions. Alice. Il devait se concentrer sur Alice. Son intuition lui disait que l'enquête de Blythe Blake et de Madeline ne déboucherait sur rien. De son côté, il n'avait aucun moyen d'investigation. Il ne possédait que ses neurones et sa psychologie. L'alcool lui brûla l'estomac, mais amplifia sa sensibilité. Il commanda un nouveau verre pour maintenir à vif son émotivité. En tant que créateur, il avait toujours parié sur une forme d'intelligence des émotions. Peu à peu, la barrière de sa mémoire s'estompa et le contenu du film lui revint en tête. Le regard brillant et fiévreux de l'adolescente. Son air désemparé. Le cachot sordide. Les menottes qui entravaient ses poignets. Sa voix saccadée et ses paroles.
« Sauve-moi, papa. Change ton témoignage, s'il te plaît. Après, nous pourrons être réunis. Réponds-moi vite, papa. »
Il essaya de faire le vide en lui, d'entrer en empathie avec Alice. La terreur qui se lisait sur son visage n'était pas feinte, mais il y avait aussi une telle intensité dans ses yeux. Malgré la peur, son intelligence et sa vivacité y étaient toujours présentes. Comme si elle ne cherchait pas seulement à susciter de la compassion, mais aussi à faire passer un message. Non, c'était impossible. On avait dû lui donner un texte à lire, ou du moins des indications précises. Comment improviser quelque chose sur seulement quelques mots ? Il prit le sous-verre en carton placé sous son cocktail et écrivit néanmoins les quatre phrases.
« Sauve-moi, papa. Change ton témoignage, s'il te plaît. Après, nous pourrons être réunis. Réponds-moi vite, papa. »
Bon, et après ? À en croire Dani, la jeune fille était parfaitement au courant des risques qu'elle courait. Elle savait que son ravisseur était probablement mandaté par le cartel mexicain. Donc, ce n'était pas l'identité de son kidnappeur, mais peut-être davantage des informations sur son lieu de détention qu'elle aurait cherché à communiquer.
Sauf si... Il eut un flash qui soudain imposa l'évidence. Il attrapa son stylo et repassa avec la bille sur la première lettre de chaque phrase. « Sauve-moi, papa. S. Change ton témoignage, s'il te plaît. C. Après, nous pourrons être réunis. A. Réponds-moi, s'il te plaît. R. »
Mises l'une après l'autre, les majuscules formaient un mot de quatre lettres. Scar. La cicatrice, en anglais.